Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous, et bon appétit si vous êtes à table. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel consacré à l'astronomie et à l'astronautique, diffusé tous les 3e dimanches du mois, de 13h à 14h sur IDFM Radio. Comme toujours, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Cette émission a une marraine, Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette édition du dimanche 19 octobre 2025, où j'avais prévu de vous proposer une émission inédite. Malheureusement, un problème informatique indépendant de ma volonté m'a empêché de préparer et d'enregistrer ce nouveau numéro dans de bonnes conditions. Mais pas question de vous laisser sans votre rendez-vous spatial. Je vous propose donc aujourd'hui une rediffusion d'une émission que vous avez peut-être manquée ou que vous aurez plaisir à redécouvrir. Il s'agit de celle du 16 juin 2010, dont le thème était « L'homme dans l'espace ». Vaste sujet. Mon invité de l'époque était Jean-François Pierrevoix, astronaute à l'Agence spatiale européenne, il est maintenant retraité. Il avait partagé avec nous son expérience unique des vols habités et sa vision de l'avenir de l'exploration spatiale. Je vous invite donc à remonter le temps avec moi, puisqu'on revient 15 ans en arrière, et à découvrir ou redécouvrir cette belle émission. Bonne écoute à toutes et à tous.
Monsieur Clairvoix, bonsoir. Alors, je ne vous entends pas, voilà.
Bonsoir.
C'est mieux là, merci. Merci d'être présent aujourd'hui dans les studios, parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Donc, merci beaucoup d'être venu. Vous êtes né le 19 novembre 1958 à Longueville-les-Metz. Vous avez donc 51 ans. Vous avez fait vos études secondaires à Franconville, à Beyrouth, puis au collège militaire de Saint-Cyr-l'École. Vous avez obtenu votre baccalauréat en 1976. Vous avez fait vos classes préparatoires au concours d'entrée des grandes écoles au Prytané National Militaire de la Flèche en maths sup et maths spé jusqu'en 1978. Vous êtes également diplômé de l'école polytechnique en 1981 et sup-aéro à Toulouse en 1983. En 1985, vous êtes choisi pour faire partie du deuxième groupe d'astronautes français. Vous avez donc obtenu le brevet d'ingénieur navigant d'essai en 1985. Également, donc tout un pédigré. Et avant de démarrer, de vous poser la première question, je vous propose un bref résumé des dates qui ont marqué la conquête spatiale, c'est-à-dire depuis le début, par Justine Catherine qui nous a fait cette petite préparation. Alors, je sais, il y en a qui vont dire il manque des dates, hein, mais j'ai pris surtout ce qui est en rapport au thème de ce soir, qui est l'homme dans l'espace.
Le 4 octobre 1957, l'URSS lance le petit satellite Sputnik 1 qui deviendra le premier objet satellisé par l'homme. Ceci marque le début de la conquête spatiale. Le 3 novembre 1957, l'URSS récidive avec le lancement de Sputnik 2 avec à son bord la chienne russe Laïka, premier être vivant à être envoyé dans l'espace. Le 1er octobre 1958, les États-Unis créent leur agence spatiale, la NASA. Le 12 avril 1961, l'URSS fait à nouveau parler d'elle en envoyant le premier humain dans l'espace, le russe Yuri Gagarin. Il reviendra sain et sauf sur Terre. Le 16 juin 1963, l'URSS, encore elle, envoie la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Le 18 mars 1965, le soviétique Alexei Leonov effectue la première sortie dans l'espace. On l'appellera le piéton de l'espace. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les premiers humains à poser le pied sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Le 31 mai 1975 marque la création de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Enfin, le 24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien est le premier Français dans l'espace et le deuxième Européen.
Voilà pour ce petit résumé de la conquête spatiale, en gros. Hein. Alors, Jean-François Clairvoy, c'est donc en 1985 que vous êtes choisi pour faire partie du deuxième groupe d'astronautes français. Comment ça se passe, les sélections, au juste ?
Alors d'abord, il faut le vouloir. Ça tombe pas par hasard. C'est-à-dire qu'on vient pas vous chercher. C'est à vous de suivre, quand vous êtes fan, l'information. Et dans les médias, les radios, les journaux, à la télévision, on annonce que l'Agence spatiale française, le CNES, à l'époque, souhaite sélectionner un deuxième groupe d'astronautes français en vue de vols conjoints avec les Russes d'un côté et les Américains de l'autre, qui sont pas encore formellement dessinés mais qui sont dans les plans à moyen terme du CNES. On nous dit à qui faut écrire ou qui faut contacter. Moi, il se trouve que je travaillais au CNES, donc je me suis déplacé à pied dans le bureau qui était en charge de cette sélection à l'autre bout du site du CNES, Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. Et je prends la première feuille à deux pages recto verso qui permet juste succinctement de dire qui l'on est. Et j'étais tellement excité à l'idée de lire et de me dire je vais candidater sans penser que je serais sélectionné, mais au moins jouer le jeu de la sélection aussi loin que je pouvais, qu'en sortant j'ai percuté la porte vitrée du bâtiment au point que j'ai saigné du nez assez sérieusement, parce qu'il venait d'enlever les autocollants rouge vif qui permettent de voir qu'il y a du vert. Il n'avait pas encore remplacé les nouveaux et j'avais la tête un peu baissée. Je suis revenu dans le bureau de la secrétaire qui m'a vu pisser le sang comme ça. Bon, ça c'était pas trop grave, ça s'est assez bien terminé, mais j'ai rempli la feuille. Et environ tous les mois, j'étais convoqué à l'étape suivante. Alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'on commence par les épreuves de sélection qui coûtent le moins cher, parce qu'elles s'appliquent au maximum de personnes. On devait être à peu près de l'ordre du millier de candidats en 85, dont le CNES a retenu entre 100 et 200 personnes basées sur la feuille recto verso à remplir. Ces personnes-là ont reçu un dossier de 40 pages à remplir. C'est toujours du remplissage à la main, au crayon, au bic, avec lettres de motivation, puis des tas de détails sur la personnalité, les goûts, les hobbies, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances, etc. Après cette partie-là, le CNES finance et programme une visite médicale courte d'une demi-journée pour voir tout de suite s'il y a un blocage médical quelconque dont on pourrait ne pas être au courant, parce qu'il y a des tas de points médicaux rébarbatifs pour aller dans l'espace, mais qui sont pas du tout gênants sur Terre pour vivre centenaire, hein, et dont on peut ne pas avoir conscience d'ailleurs, hein. Donc analyse de sang, etc. Une fois qu'on a fait ça, donc la sélection se réduit à peu près du tiers, et puis on est peut-être 70-80 à passer les tests psychologiques, psychotechniques et psychomoteurs. Alors je vais expliquer ce que c'est. Psychologique, c'est remplir un questionnaire de questions à choix multiples de 1000 à 2000 questions. C'est un questionnaire, mais on vous demande, en fait, on veut identifier votre personnalité. Et souvent, on voit quelle est la réponse qui serait la meilleure. Mais si on ment, les psychologues le découvrent, parce qu'il y a plusieurs questions et réponses qui se recoupent. Et bon, c'est assez rébarbatif, mais il faut lire toutes les questions, répondre, et ça va du genre, en général, à l'école, j'aimais bien mes professeurs, ou alors, j'aimais pas l'école, ou quand quelqu'un me donne une gifle, je la renvoie tout de suite, ou alors je pars en courant, ou alors j'essaie de comprendre pourquoi et de m'expliquer. Voilà, il faut choisir. Ça, c'est la psychologie. Dans ces tests psychologiques, il y a des tests de groupe aussi. Donc on nous met ensemble autour d'une table, on nous donne l'énoncé d'un problème qu'il faut résoudre à plusieurs. Et on nous donne un temps limite. Et d'ailleurs, ces tests ont été utilisés dans plusieurs sélections qui ont suivi. Même la sélection des astronautes européens qui s'est terminée l'année dernière, j'ai fait partie du jury psychologique et j'ai revu exactement le même test de dynamique de groupe que j'avais connu en 85, donc il y a 25 ans. Donc je dirais pas lequel c'est parce qu'on va peut-être le réutiliser dans les sélections futures.
Bien sûr.
Donc dynamique de groupe, il y a des tests psychomoteurs, c'est de l'habileté gestuelle. Donc là, c'était des vieux tests de pilotes définis par l'armée de l'air avec des voyants lumineux de différentes couleurs, des voyants blancs mais de différentes formes et des sons dans les oreilles de différentes fréquences. Et selon la combinaison des sons, des couleurs, fallait appuyer du pied gauche, du pied droit, de la main droite, de la main gauche ou une combinaison ou pas appuyer du tout. Et donc c'est assez stressant. Et puis des tests psychotechniques, c'est le QI, mesure du QI avec des tas de tests de logique, de calcul rapide, etc. Après ces tests, le tabouret tournant, le test de vomissement. Donc, on est sur un tabouret qui tourne rapidement et pendant qu'il tourne, à la raison de 30 tours minute, il faut basculer la tête toutes les 5 secondes d'avant en arrière, à dos, gauche, à droite. Ça rend malade et puis on regarde si le candidat est très très susceptible, s'il arrive à résister, à être volontaire et puis à tenir jusqu'au bout, ça dure 8 minutes. Et puis à la fin, quand on n'est plus qu'une trentaine, il y a les tests dits physiologiques spéciaux, donc les tests qui mettent en branle des moyens très lourds, la centrifugeuse, la chambre d'altitude, la table basculante, le caisson à dépression du bas du corps, enfin des noms un peu barbares, mais ça fait pas mal et on en apprend beaucoup sur soi-même. Et puis quand on a fait tout ça, parce qu'à chaque fois on a eu la chance d'être appelé à l'étape suivante, eh bien il y a un entretien avec un jury final composé des directeurs de l'agence spatiale. Et puis à ce moment-là, on est peut-être une quinzaine hein, ou une vingtaine et on espère faire partie des finalistes.
Mmh. Alors justement, vous êtes sélectionné pour la mission STS-66 qui consistait en la réparation du satellite Hubble.
Alors, non, je vais revenir à l'arrière. En 92, moi j'étais sélectionné par le CNES en vue de vol avec les Russes.
D'accord.
Mais en 92, l'Agence spatiale européenne, qui avait son propre corps d'astronautes, lance la sélection de son deuxième groupe d'astronautes à elle. Et là, le CNES décide de présenter des astronautes qu'elle a déjà en son sein, l'Agence spatiale française. Plus tard, on va unifier les corps. On pourra peut-être en reparler, le corps des astronautes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un corps d'astronautes en Europe. Il est géré par l'Agence spatiale européenne. Le CNES, l'Italie, l'Allemagne n'ont plus leurs propres astronautes étiquetés nationaux. Mais donc, je suis sélectionné par le CNES en 92. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui est la NASA de l'Europe, si on peut dire.
Voilà.
Et l'ESA m'envoie à Houston intégrer le 14e groupe d'astronautes NASA. Donc je suis reçu par la NASA comme un astronaute étiqueté NASA. Et je suis traité par la NASA comme les astronautes américains. En arrivant, on nous a dit, on était 5 étrangers, 5 internationaux, ils utilisent les termes international, pas étrangers, parmi 24 qui constituaient cette promotion. Et on nous a dit, vous les internationaux, vous allez être entraînés, qualifiés, responsabilisés et affectés en vol par nous, comme vos collègues américains. On fera pas la différence, c'était un deal avec l'agence spatiale japonaise, canadienne et européenne. Donnez-nous vos astronautes, on va les mettre dans notre moule et ça va vous permettre de commencer à construire votre propre corps d'astronautes expérimentés. Et c'est la NASA qui m'affecte à STS-66, mon premier vol, qui a eu lieu en novembre 94 et qui était dédié à l'étude de l'atmosphère et de l'influence du soleil sur l'atmosphère. Donc, c'est un vol dont la soute de la navette Atlantis est remplie d'instruments de mesure qui sondent l'atmosphère, certains qui observent le soleil mais que ponctuellement quand on pointe le soleil, mais la plupart du temps nous étions en vol sur le dos et sur une orbite très incliné par rapport à l'équateur. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais c'est un big deal pour nous. C'est assez important parce que si on tourne sur une orbite qui tourne donc autour de la Terre, dont le plan passe assez près des pôles, la rotation toutes les heures et demie autour de la Terre sur notre orbite, combinée avec la rotation de la Terre sur elle-même, fait qu'on couvre visuellement toute la surface du globe. Alors que certes, il y a certains vols spatiaux habités qui sont proches de l'équateur. L'orbite est pratiquement autour de l'équateur et on ne voit que l'équateur plus ou moins quelques milliers de kilomètres au nord et au sud. On ne voit pas tous les continents. Donc j'ai eu la chance lors de ce premier vol de pouvoir observer la Terre quasiment sur toute sa surface. Et comme nous étions en vol sur le dos, les deux grands hublots de qualité optique supérieure pointaient vers la Terre. Et c'est là qu'on a pris les plus belles photos de la Terre. Je les ai prises lors de ce vol. On a pris 8000 photos en 11 jours.
Alors, avant de continuer et de parler plus en détail de cette mission, j'ai proposé à des collégiens de vous poser des questions. On écoute tout de suite la première question.
Allô la Terre, ici Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Bonjour, monsieur Jean-François Clairvoy. Êtes-vous fier que le collège porte votre nom?
Alors, je suis pas sûr que vous avez bien entendu. Donc, elle demande, est-ce que vous savez qu'il y a un collège qui porte votre nom?
Alors, bien sûr, puisque c'était en février 2007, j'étais à l'inauguration, au baptême du collège. Donc, le ministre de la fonction publique, Christian Jacob, à l'époque, est venu, le préfet, et puis plusieurs autorités de l'éducation nationale étaient présentes, mon épouse, des amis, ma maman, mon frère, et nous avons dévoilé le nom donc inscrit à l'entrée du collège, et c'est une grande fierté pour moi, d'autant plus que c'est dans une ville où j'ai une partie de mon enfance, de 1971 à 1974.
D'accord. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur ce collège, puisqu'il y a d'autres questions. Justement, ce sont des élèves du collège Jean-François Clairvoy qui vous ont posé ces questions. On revient donc sur cette mission STS-66. Alors, je voulais vous demander, quand on est dans la navette, au moment où on va décoller, quel est votre état d'esprit? Est-ce que c'est comme dans le film Apollo 11, où les astronautes disent « Allez, quelques montagnes russes et on rentre au bercail ?»
Alors, ça dépend si vous êtes sur le pont supérieur ou le pont inférieur. Si vous êtes ce qu'on appelle sur le pont supérieur ou le pont de vol, the flight deck en anglais, c'est-à-dire le cockpit, vous avez un rôle opérationnel. Vous devez lire les instruments, donner certaines informations par voie verbale au pilote. Donc vous êtes dans la boucle, vous êtes le nez dans le guidon, comme on dit, et vous êtes exactement dans le même état d'esprit que dans le simulateur. À la limite, vous oubliez ou vous n'avez pas assez de ressources mentales pour penser à ce qui va se passer, qui va être phénoménal. Si vous êtes dans le pont inférieur, ce qui était le cas lors de la montée de mon premier vol, vous avez toute liberté de gamberger sous contrôle, hein, quand même, et de vous dire, ouais, je le tiens, je sens, c'est réel, et on est vraiment excité. Et avec Hélène Ochoa, qui était juste à ma droite, on se tenait la main et puis on se regardait avec un large sourire en se disant c'est bon, on le tient, on va partir, et on est vraiment vraiment excités. On pense aussi à tous les amis qui sont venus de loin, qu'on a invités pour le lancement, donc ceux qui sont venus d'Europe en particulier, la famille, les amis, et puis on espère qu'il va pas y avoir un problème météo ou technique qui va reporter le vol, parce qu'on a envie qu'ils assistent à ce spectacle absolument époustouflant du décollage d'une navette spatiale. Donc très excités et des pensées qui peuvent divaguer un peu si on est dans le pont inférieur. Par contre, concentré sur le job si on est dans le cockpit.
Mmh. Alors, une fois dans l'espace, donc vous disiez que vous pouviez voir justement la Terre, quasiment toute la Terre, enfin la partie que l'on voit.
Alors, on la survole, c'est-à-dire on la voit pas dans sa globalité. Ça, c'est d'accord, une chose que je veux bien expliquer.
D'accord.
Alors, d'abord, juste pour le décollage, moi je résume en quatre caractéristiques le vol spatial, si on veut vraiment simplifier. Il y a le gros coup de pied aux fesses au décollage, c'est vraiment une sensation de puissance énorme, et c'est très court, puisqu'en 8 minutes et demie, on passe de 0 sur le pâtir, 0 km heure, à 28 000 km heure, 25 fois la vitesse du son. Donc c'est une puissance phénoménale qui nous permet d'atteindre une vitesse de satellisation, et c'est mémorable, ça, on s'en souvient toute sa vie. Une fois qu'on est dans l'espace, ben, je dirais que une des caractéristiques du vol spatial, c'est le phénomène d'apesanteur qui est aussi spectaculaire, qui est très étrange, que je connais bien parce que je pratique beaucoup les vols paraboliques, on pourra en reparler. Mais le ciel est noir en plein jour. Donc ça, il n'y a pas besoin de monter jusqu'à 300, 400 km d'altitude, même à 30, 40 km, le ciel est déjà très sombre. Quand il fait jour, le ciel, il est bleu ou il est blanc? Eh bien, dans l'espace, vous êtes du côté jour de la Terre, donc éclairé par le soleil, mais le ciel est noir, profond, noir d'encre. Et puis enfin, la quatrième caractéristique, c'est la beauté de la Terre, la beauté inouïe de la Terre, de ses volcans, de ses ouragans, des déserts, des chaînes de montagnes, des atolls de Polynésie dans leur couleur turquoise qui nous mettent la larme à l'œil. Donc on fait le tour en une heure et demie, on fait 16 fois le tour du monde par jour. Ça veut dire que 16 fois par jour, on passe la moitié du temps à survoler le côté de la Terre où il fait jour, où on voit bien les détails, enfin bien de quelques dizaines de mètres. Il faut prendre des jumelles pour voir vraiment très précisément. Et puis 45 minutes plus tard, on survole le côté de la Terre où il fait nuit. Donc là, soit on voit rien, c'est noir, ou on voit des masses nuageuses éclairées de l'intérieur par les éclairs. Donc c'est très impressionnant. Ou on voit la lumière des villes s'il n'y a pas de nuages. Et puis on survole aussi 45 minutes l'hémisphère nord, puis 45 minutes l'hémisphère sud. Si on est sur une orbite incliné par rapport à l'équateur, comme dans le cas de mon premier vol, eh bien, on voit deux saisons toutes les 45 minutes s'opposer. On voit l'hiver, puis l'été, puis l'hiver, puis l'été. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est fascinant.
Alors, j'ai une question internet, puisqu'il y a des auditeurs qui m'ont envoyé des questions par mail avant cette émission, et notamment une question de Guillaume qui demandait est-ce qu'on voit aussi, parce que vous parlez de la beauté de la Terre, mais on sait qu'en ce moment, ça fait déjà plusieurs années que la Terre va mal avec les pollutions, la déforestation, tout ça, ça se voit aussi de l'espace ?
Alors, globalement, ça se voit pas. Globalement, la mémoire que j'ai de la vue globale de la Terre, alors, on n'est qu'à quelques centaines de kilomètres d'altitude, c'est-à-dire on ne voit pas. C'est pas comme un ballon de football qui serait à quelques mètres dont on voit la moitié. Nous on voit qu'une calotte. On est le champ de vue, la Terre prend 120 degrés dans le champ de vue à peu près. Donc l'horizon est à 2500 km de côté et globalement la Terre est d'un magnifique bleu et elle est vraiment très belle. Il faut regarder précisément à certains endroits, éventuellement prendre des jumelles pour voir des cicatrices, pour voir la déforestation, pour voir des feux de forêt, pour voir des pétroliers qui dessalent dans leur cuve au large des côtes. Et là, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur et quand on revient, moi, quand je suis revenu de mon premier vol et depuis les vols suivants aussi, je suis devenu très très sensible et je me vexe facilement à voir des personnes qui maltraitent leur environnement. Donc la Terre, en tant qu'être géologique vivant, elle nous survivra. Et on ne va pas l'empêcher de vivre son destin à long terme, puisqu'elle a encore 4 milliards d'années à vivre, la Terre. Mais c'est la vie à sa surface, c'est toute la biodiversité, les animaux, les végétaux, les humains, enfin, tout cet équipage vivant que nous formons sur notre satellite naturel, notre vaisseau spatial naturel. La Terre est un vaisseau spatial, limité comme le nôtre dans l'espace. On a envie vraiment de... si c'est pas facile de modifier les habitudes des adultes, on peut au moins sensibiliser les jeunes dès l'école primaire, dès le plus jeune âge, pour leur expliquer que la planète Terre, c'est un vaisseau spatial, elle a des ressources limitées, il faut pas en prélever plus chaque jour que la nature nous en donne. Et si on fait attention, on peut maintenir aussi sa beauté pour des générations et des générations.
Alors, lors du retour, comment se passe le retour quand vous revenez sur Terre ? C'est la même chose que le décollage en sens inverse ou est-ce qu'il y a des manipulations différentes ?
Alors, c'est différent parce qu'on n'a pas le coup de pied aux fesses qu'on a au décollage. On n'a pas la sensation physique de cette puissance énorme qui nous pousse dans notre siège vers le haut. Le retour se fait sur une heure à peu près. Entre le moment où on freine en orbite, on décélère légèrement pour que notre trajectoire de chute libre, au lieu d'être circulaire et contourne la Terre sans jamais la rencontrer, en freinant un petit peu, on fait que notre trajectoire de chute libre est un peu plus à piquer. Donc on finit par toucher l'atmosphère au bout d'une demi-heure. Une fois qu'on touche l'atmosphère, en une demi-heure, on freine de 25 fois la vitesse du son à zéro. C'est-à-dire toute l'énergie, toute la vitesse accumulée au départ, faut la perdre au retour. Mais on le fait étaler sur une période de 30 minutes. La gravité revient tout doucement et on se sent devenir progressivement très très lourd. On se sent perturbé au niveau du sens de l'équilibre, donc il ne faut surtout pas pivoter la tête sur le côté, sinon on a un tournis énorme et on peut mettre plusieurs secondes ou dizaines de secondes à retrouver ses esprits. Et il faut quand même rester concentré sur les instruments pour ceux qui sont dans le cockpit. Donc, sensation de lourdeur qui revient, la gravité revient en douceur, des lumières rougeoyantes qui passe derrière le pare-brise et les hublots. C'est en fait l'air qui est électrifié, on peut dire en quelque sorte. Le frottement arrache des électrons aux molécules d'air. Et on peut simplifier en disant que l'air est électrisé par le frottement de la navette sur l'atmosphère. Et ça crée des grosses flammes rouges. On a l'impression qu'on est en feu. Mais ce sont pas vraiment des flammes, hein. C'est plutôt rouge-orangé que jaune vif. Et ça, c'est assez impressionnant. Il y a quelques périodes où ça secoue. Vers Mach 10, quand on est à 10 fois la vitesse du son, puis quand on passe en subsonique, c'est-à-dire quand on passe en dessous de la vitesse du son dans les dernières minutes, mais c'est très supportable. Et lorsqu'on atterrit, ça fait tout drôle parce que on a d'un seul coup fini la mission, donc on peut relâcher notre concentration qui a été quasiment continue pendant une dizaine de jours. On souffle, on se regarde, on se serre la main, on se félicite et on est vraiment heureux d'avoir réussi.
Bien sûr. Alors parlons maintenant, j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe très vite, parlons maintenant de votre deuxième vol qui a lieu en juillet 1996.
Alors,
c'est votre sélection.
Ça, c'est la sélection pour le vol, voilà. Donc, je suis annoncé pour une mission en juillet 96, pour un vol qui a eu lieu en mai 97, qui est un ravitaillement de la station spatiale russe Mir, qui est au fond du Pacifique aujourd'hui, hein. Elle est plus en orbite, elle est remplacée par la station spatiale internationale. Donc, une station spatiale, c'est un vaisseau spatial aménagé comme une maison, qui est pas destiné à planer dans l'atmosphère, à rentrer de façon saine dans l'atmosphère. Il n'y a pas de bouclier thermique. Ce sont des bidons assemblés dans lesquels les astronautes travaillent, font de la recherche, vivent, font du sport et se détendent sur des périodes de longue durée de plusieurs mois. Donc, ravitailler, ça veut dire, on s'approche, on effectue une phase de rendez-vous, et d'accostage. Tout ça à 28 000 km/h, donc c'est très délicat. Une fois qu'on est accosté, on s'assure d'une liaison étanche et par la liaison étanche, par la porte, eh bien on passe plusieurs tonnes de matériel, des vivres, des vêtements, des pièces de rechange et on échange avec les amis qu'on vient voir, on leur apporte des cadeaux aussi. Donc ça, c'est une mission pour les hommes et qui est probablement la plus émouvante pour moi en termes de relations humaines.
Et puis il y a eu ensuite le troisième vol où vous avez été sélectionné en décembre 1999, c'est ça ?
Alors j'étais sélectionné en mars 1999 pour un vol qui était prévu 6 mois plus tard, donc en septembre-octobre, et à cause de divers problèmes techniques, notre vol a été reporté 12 fois. Notre date de lancement. Et on a finalement décollé le 18 décembre 1999 pour réparer le télescope spatial Hubble. C'est une mission qui n'existait pas, qui n'était pas dans le programme. Mais lorsque le télescope a commencé à perdre des gyroscopes un par un, donc des petites toupies qui servent à maintenir stable la visée vers les étoiles, la NASA s'est dit, il faut absolument qu'on rajoute une mission pour tout de suite aller réparer ces gyroscopes, sinon le télescope va tomber en panne et on va le perdre définitivement. On était censé y arriver avant que le télescope tombe définitivement en panne, mais les retards ont fait que la panne qu'on redoutait est arrivée, la quatrième panne de gyroscope, et le télescope a été mis en sommeil, dans le coma, et nous lui avons redonné vie. Donc c'était une véritable mission de réparation plus qu'une mission de maintenance.
Alors c'est vous qui avez capturé le télescope, hein, c'est ça ?
Voilà, c'était un peu ma spécialité. J'étais identifié comme un parfait pilote de ce bras télémanipulateur qui ressemble à un bras humain, avec une épaule, un coude, et un poignet et une main, mais qui fait 15 mètres de long, qui est à l'extérieur de la navette, dans la soute, et qui se pilote de l'intérieur par 2 manches de pilotage, chaque manche pouvant se déplacer dans 3 directions. Puisque quand vous regardez votre main, vous pouvez la déplacer en ligne droite vers le haut, vers le bas, d'avant en arrière, à droite, à gauche, ça fait 3 directions. Mais en plus, vous pouvez la faire tourner sur elle-même dans 3 directions. Et donc ça se commande par des manches de pilotage. Et j'étais effectivement chargé de capturer le télescope spatial Hubble, le fixer dans la soute, et dès le lendemain, après avoir installé un cale-pied à distance à l'extrémité du bras robotique, eh bien, je l'amenais près de mes collègues en scaphandre qui se calaient les pieds dans ce cale-pied pour que je leur serve de chauffeur. Donc, les 3 jours qui ont suivi la capture du télescope, j'ai déplacé mes collègues avec ce fameux bras télémanipulateur. Donc, je les amenais dans le télescope, en haut, en bas, derrière, pour faire le travail de réparation.
On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une respiration musicale pour laisser les auditeurs digérer tout ce qui s'est dit. Je vous propose Popcorn, un titre qui a été composé par Jean-Michel Jarre, justement, version 1969, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Merci de passer cet après-midi en notre compagnie. Nous poursuivons avec cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une rediffusion aujourd'hui, une émission qui avait été diffusée le 16 juin 2010 et qui avait pour thème l'homme dans l'espace, avec comme invité Jean-François Clairvoy, qui était à l'époque astronaute de l'Agence spatiale européenne et qui est aujourd'hui à la retraite.
on vient d'écouter Popcorn, version 1969 de Jean-Michel.
Ça m'a beaucoup parlé parce que presque tous les matins, on écoutait ça au réveil quand j'habitais Beyrouth pendant 3 ans, de 71 à 74. Donc ça me parle très fort tout de suite.
Voilà. Et vous saviez pas que c'était Jean-Michel Jarre qui avait...
Oui, j'avais pas en tête qu'il avait produit cette version.
Tout à fait. Alors on poursuit dans cette émission. On va écouter, comme je l'ai dit, une question d'une élève du collège Jean-François Clairvoy à Franconville.
Allô la Terre, ici Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne.
Bonjour Monsieur Jean-François Clairvoy. La question que je voulais vous poser, c'est pourquoi avoir accepté de donner votre nom au collège ?
Alors, la réponse.
Ah, c'est parce que si je peux inspirer par mon parcours des jeunes à choisir pour leurs études, pour leur vie, une voie qui est un véritable défi, une voie scientifique, une voie de découverte, d'aventure, d'exploration, je serais vraiment content. Moi, j'ai beaucoup étudié dans des écoles portant des noms de personnes disparues, d'écrivains, d'historiens, mais rarement, c'est très rare, les écoles qui portent des noms de scientifiques ou de pionniers ou d'aventuriers ou d'explorateurs. Et ce que je souhaitais en acceptant donc que mon nom soit donné à ce collège, c'est que ça puisse inspirer des élèves de ce collège et peut-être de collèges environnants à se demander, tiens, au fait, qui était Jean-François Clairvoy ? Ah, c'était un astronaute, tiens, on va regarder sur Internet, on va voir. Ah, mais on peut faire des études comme ça, on peut devenir ingénieur, on peut télécommander des vaisseaux spatiaux, on peut piloter du bras robotique. Donc ça peut déclencher chez des collégiens l'idée de chercher un peu mon parcours et puis de se demander, tiens, est-ce que je pourrais pas avoir un parcours similaire, analogue, en choisissant une voie plutôt scientifique ? Parce qu'on manque cruellement de scientifiques aujourd'hui, dans le monde entier d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, il y a quelques années, le président des États-Unis, George W. Bush, annonçait le retour de l'homme sur la Lune pour 2020. Barack Obama, lui, maintenant, a annulé ce retour et préfère se tourner vers Mars. Alors, quel est votre sentiment par rapport à cette décision ?
Alors, en fait, Mars a toujours été une destination. C'est pas un changement de destination. C'est plutôt le choix de prendre un shortcut, un court-circuit. C'est-à-dire, on s'est dit, finalement, la Lune, ça va coûter très très cher. Si on veut faire quelque chose vraiment de différent d'Apollo, il faut aller ailleurs, faut s'installer dans la longue durée, et tout ça, ça demande beaucoup de logistique, ça peut coûter très cher, prendre du temps, alors que le but ultime, c'est quand même Mars derrière. Donc, j'ai pas commenté la décision d'Obama parce que c'est un programme dans lequel on n'était pas impliqué en Europe, mais dans la mesure où on garde le cap d'envoyer un jour un homme sur Mars, ce qui est l'ambition de toutes les grandes agences spatiales d'aujourd'hui. L'ESA, ça fait plus de 10 ans qu'elle a son programme Aurora, dont le but ultime, c'est de placer un équipage, au moins un Européen, sur Mars un jour. Même si ça prend 30 ans ou 40 ans, mais c'est quand même, il n'y a pas de date définitive, mais c'est quand même Mars, la prochaine destination importante pour l'humanité en termes d'exploration spatiale habitée. Et par ailleurs, ça a permis d'allonger la durée de vie de la Station Spatiale Internationale, et ça c'est bien pour nous, puisque c'est le programme principal de l'Agence Spatiale Européenne aujourd'hui en termes de recherche spatiale avec l'homme dans la boucle, et on vient à peine de mettre au point notre vaisseau ATV qui a parfaitement fonctionné, on vient seulement il y a 2 ans d'avoir fini d'installer notre laboratoire Columbus, donc c'est bien qu'on ait 5-6 ans de plus que ce qui était prévu au départ pour l'exploiter le plus longtemps possible, et ça va donner des opportunités de vol à nos astronautes, alors que si on avait arrêté la station en 2015, on aurait dû compter que sur un vol tous les 5 ans pour un Européen. Là, on aura probablement plus d'opportunités de vol, et puis ça permet aussi en période de crise économique de continuer d'assumer notre destin d'explorateur, mais sans dépenser des sommes plus importantes que ce qu'on peut octroyer aux agences.
Question internet de Guillaume qui demande, si on vous donnait aujourd'hui l'opportunité de retourner dans l'espace, est-ce que vous accepteriez ?
Ah ben bien sûr, je suis toujours astronaute actif et puis je suis partant. Vous me donnez un billet pour partir demain.
Sur Mars par exemple, vous êtes partant ?
Ah, sur Mars c'est une autre question parce que Mars ça demande une préparation particulière. Mars est quand même très différent de tout ce qui s'est fait à ce jour. Puisqu'à ce jour, tous les astronautes qui sont allés dans l'espace, même ceux qui sont allés sur la Lune, voyaient toujours la Terre, pouvaient parler en temps réel par radio avec leur famille ou les experts au sol en permanence, et pouvaient en quelques heures ou maximum 2-3 jours revenir sur Terre en cas d'urgence. Ceux qui partiront vers Mars, ce sera totalement différent. Ils ne verront plus la Terre, ils ne pourront plus parler avec les terriens de façon normale, puisque les liaisons radio pourront avoir un retard de plusieurs dizaines de minutes. Et puis une fois pris la vitesse de transfert martien, une fois avoir pris l'élan pour partir vers Mars, il faudra attendre d'être passé dans son voisinage pour envisager de revenir sur Terre. Donc c'est un départ sans possibilité de retour avant longtemps. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire de l'exploration spatiale. On se rapproche plus des pionniers qui partaient vraiment à l'aventure il y a plusieurs siècles, sans savoir où ils allaient et sans se dire qu'ils reviendraient peut-être. Mais j'aimerais bien en faire partie, indépendamment du fait que j'ai une famille à qui il faut que je demande l'avis quand même. Si je pouvais faire partie de cette aventure qui serait une étape immense pour l'humanité, ce serait bien. Enfin, ça me motiverait, oui.
Il y a d'ailleurs actuellement une expérience qui est faite
Moscou, avec deux Européens, un Italien, un Français. Et alors, c'est pas tout à fait dans les mêmes conditions, puisque dans le contrat, ils savent qu'à tout moment, s'ils le veulent vraiment, ils peuvent décider d'abandonner. Alors, celui qui partira vers Mars, une fois qu'il a pris l'élan, il peut pas décider d'abandonner. Mais enfin, c'est des conditions aussi proches que l'on peut. Il n'y a pas la pesanteur, mais il y a quand même le confinement, l'isolation en termes de liaison radio avec le temps, la nécessité de se gérer tout seul la plupart du temps, parce que les communications sont pas là pour aider. Donc, on va apprendre beaucoup. Et il y aura d'autres expériences de ce genre. Moi, je suggère fortement qu'un jour, on mette une partie de la Station Spatiale Internationale en mode vaisseau de transport martien. Ne serait-ce que pour tester, sans prendre le risque total dès le départ, tester le mode de travail, le mode de vie, le mode de relation interpersonnelle qui régnera dans un vaisseau spatial qui partira vers Mars. Donc on le fera peut-être d'ici 2020, on a le temps, mais il faut le préparer, tout ça il faut le préparer. Il nous reste beaucoup à apprendre sur la psychologie de l'humain pour être sûr du choix d'envoyer des hommes vers Mars. Il faut maîtriser aussi le problème de radiation, puisqu'on sortira du champ magnétique terrestre qui nous protège en orbite basse. Donc voilà, les deux enjeux pour Mars, c'est bon, d'avoir savoir où est-ce qu'on les envoie, donc identifier le lieu, ça c'est le rôle de scientifiques qui sont experts de Mars, mais du point de vue de la sécurité et de l'humain, c'est comment se protéger au mieux des radiations. Par exemple des rayons cosmiques et des rayons solaires en cas d'éruption solaire, et puis comment bien maîtriser la sélection des astronautes et leur préparation psychologique pour qu'ils soient performants pendant toute la mission.
Vous travaillez sur une société zéro gravité,
c'est voilà, ça Novespace. Novespace, c'est une filiale du CNES, c'est une société anonyme, société de droit français, privée, qui est filiale du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, qui est la NASA de la France. Et filiale aussi de banques qui finançaient au départ les travaux de cette société en termes de transfert de technologie. Mais aujourd'hui, cette société est propriétaire d'un Airbus A300, qu'on a baptisé 0G, un nom que j'ai inventé il y a une vingtaine d'années pour une caravelle et qui a été transféré à l'Airbus, et qui est aménagé de façon à reproduire exactement le même état d'apesanteur que dans l'espace pendant des périodes de 22 secondes répétitives. Au cours d'un vol, on effectue plus de 30 paraboles. Une parabole, c'est une montagne russe. Au sommet de laquelle, pendant 22 secondes, on est exactement en apesanteur comme dans l'espace. On met en fait l'avion sur orbite. Une trentaine de fois par vol, on le fait à l'intérieur de l'atmosphère, donc ça demande un pilotage très adroit des pilotes sur la poussée des moteurs, sur le manche de pilotage, etc. Et c'est un laboratoire de recherche pour des scientifiques qui ont besoin de l'apesanteur. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin d'aller dans l'espace pour faire leur recherche. Quelques secondes leur suffisent. Donc dans notre avion, ils viennent effectuer de la recherche dans tous les domaines scientifiques que vous pouvez imaginer. Les sciences de la vie, biologie, physiologie humaine, animale, structure, matériaux, combustion, chimie, comportement de poussière interstellaire, laser, atomes froids. On a de la physique nucléaire, comme on a de la physique des matériaux, physique des fluides. Donc c'est vraiment fantastique.
Alors c'est en haut de la parabole en fait, c'est quoi?
C'est la partie, c'est les 10 secondes montantes et 10 secondes descendantes, en fait au total 22 secondes typiquement. Si vous lancez un caillou en l'air, vous prenez un jet d'eau, vous le pointez vers le ciel, les gouttelettes qui se suivent matérialisent ce qu'on appelle la trajectoire de chute libre, qui est une parabole. L'avion suit la même trajectoire, c'est-à-dire que à partir du vol en palier horizontal, pendant 20 secondes, l'avion cabre pour prendre une direction vers le haut, une vitesse qui pointe vers le ciel. Et au bout de 20 secondes, le pilote pousse sur le manche et commence cette manœuvre de parabole. Donc il suit une trajectoire montante et descendante. C'est la partie incurvée du haut de cette trajectoire qu'on appelle la parabole et pendant laquelle on est en apesanteur.
On va écouter la dernière question d'un élève du collège Jean-François Clairvoy.
Allô la Terre, ici Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne.
Bonjour monsieur Jean-François Clairvoy, la question que je voulais vous poser c'est comment c'est la vie dans les étoiles?
Alors la vie dans les étoiles, je ne peux que proposer ce que j'espérerais qu'elle soit, mais je ne peux pas le démontrer. Et personne ne peut démontrer le contraire non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer que la vie existe ailleurs, on ne peut pas démontrer qu'elle n'existe pas. Donc chacun peut croire ce qu'il veut, c'est une bonne réponse pour soi-même. Moi j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais on saura peut-être dans quelques générations si nous sommes seuls ou pas, sans parler d'intelligence, mais déjà du vivant. Et c'est la grande quête de l'humanité et c'est une des raisons pour laquelle Mars est très intéressant, parce que plus on étudie Mars et plus on pense qu'il y a les facteurs favorables à ce que les briques de vie élémentaire aient pu être fabriquées sur place ou aient pu s'assembler. Donc voilà, étudions Mars et puis continuons à explorer l'univers avec des télescopes toujours plus puissants, et puis un jour on peut imaginer dans des millénaires peut-être des vaisseaux gigantesques qui emmèneront des générations se renouvelant à bord pour aller explorer d'autres planètes autour d'autres soleils. Voilà. Donc maintenant, si la question c'était comment est la vie dans l'espace, la vie que j'ai connue moi autour de la Terre, qui n'est pas dans les étoiles, qui est seulement autour de notre Soleil, en étant autour de la Terre, eh bien la vie c'est du camping, on vit à bord de la navette spatiale ou à la station comme dans du camping, à la bonne franquette pour dormir, se laver, manger, boire, et on s'y habitue très bien.
D'accord. Alors maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle de votre point de vue aussi sur les missions futures, puisqu'il y a des missions actuellement qui sont en préparation pour l'ESA.
Alors aujourd'hui, le programme principal de vol habité de l'Agence spatiale européenne, des Européens, c'est la Station spatiale internationale, qui n'a pas encore de nom officiel. Les astronautes l'appellent Alpha, mais nous on l'appelle toujours officiellement ISS, enfin nous les responsables de programme de l'ESA, ISS pour International Space Station. Donc c'est un véritable laboratoire volant de recherche en apesanteur, de recherche en utilisant le vide parfait qui règne à l'extérieur. Il y a des, par exemple, sur le module Columbus de l'Agence spatiale européenne, à l'extérieur, il y a des expériences exposées au vide spatial. On utilise aussi sa position privilégiée pour faire des observations vers la Terre, faire des observations d'astronomie à l'opposé, vers le ciel. Et c'est aussi un banc d'essai de coopération internationale. C'est le plus grand projet scientifique pacifique à l'échelle mondiale, qui réunit des experts de la Russie, des États-Unis, du Canada, du Japon, de 10 pays membres de l'Agence spatiale européenne, bientôt aussi du Brésil. Les Chinois nous rejoindront peut-être d'ici 2020, d'ici la date envisagée pour terminer l'exploitation de cette station. Voilà, donc sur les 10 ans qui viennent, devant nous, c'est l'exploitation de cette station spatiale internationale, s'en servir de banc d'essai pour préparer des voyages vers Mars, s'en servir de banc d'essai pour tester des nouveaux moyens de propulsion, puisqu'on va amener un moteur à plasma développé par un astronaute d'ailleurs. On va y amener des expériences aussi de recherche d'antimatière dans le dernier vol de la navette spatiale. Et puis, à côté de ça, il faut préparer des vaisseaux futurs qui vont nous permettre d'aller plus loin. Donc, Aujourd'hui, il y a de la recherche technologique, mais il n'y a pas de décision encore définitive de lancer de tels programmes. Parce que faut bien savoir qu'à l'Agence spatiale européenne, les programmes qu'on réalise sont des programmes décidés par les ministres de l'espace des pays européens qui se réunissent une fois tous les 2-3 ans. Et c'est pas facile de décider ensemble d'un grand programme, parce que chaque pays voit aussi les intérêts propres nationaux. Et mais j'espère qu'un jour on aura notre propre système de transport spatial. C'est vraiment ce qui nous manque en Europe. Le jour où on aura notre propre vaisseau spatial, notre propre capsule européenne qui décollera à partir d'un lanceur européen dérivé d'Ariane, d'une base européenne, Kourou, qui est le centre spatial européen de lancement européen en Guyane française, un équipage 100% européen, eh bien, on sera vraiment à égalité avec les autres grandes puissances américaines, russes et chinoises.
On va s'interrompre très rapidement, le temps d'une respiration musicale de nouveau, et puis on se retrouve pour la fin de cette émission. À toi les étoiles.
IDFM Radio, 98 FM.
Dernière partie de cette émission « À toi les étoiles » de ce dimanche 19 octobre 2025. Vous écoutez une rediffusion d'une émission qui avait été diffusée le 16 juin 2010 et qui avait pour thème « L'homme dans l'espace » avec comme invité Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Il est aujourd'hui retraité.
J'ai une dernière question internet que j'ai sélectionnée de gens qui voulaient vous demander par rapport à l'intelligence. Bon, on sait que l'homme est intelligent, mais pensez-vous, selon sa question, pensez-vous qu'il y a une intelligence supérieure à celle de l'homme quelque part dans l'univers ?
C'est très difficile de répondre à cette question. Personnellement, je crois qu'il y a quelque chose de supérieur. Alors, je l'appellerai pas forcément intelligence, mais parce qu'intelligence, on pense à celle de l'homme. Donc, si on dit qu'il existe une intelligence supérieure, ce serait comme un Superman, quoi, un surhomme. Mais comme je l'écris dans mon livre Histoire d'espace, je crois qu'il existe des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Il nous reste beaucoup de choses à découvrir sur la vie, sur le monde, sur la nature, sur l'univers, sur ce que l'on sait être là mais qu'on n'observe pas, notamment la matière noire, l'énergie sombre. Et je crois en quelque chose de supérieur. Maintenant, est-ce qu'il faut l'appeler Dieu? Est-ce qu'il faut l'appeler le Créateur? Est-ce que c'est une intelligence? Est-ce que c'est un concours de lois de la nature qui sont nettement supérieurs à celles qu'on étudie en physique aujourd'hui? Je ne sais pas le dire, mais je crois que le monde, l'univers, la pensée, l'âme ne sont pas limités juste à ce que l'on palpe tous les jours. Il y a quelque chose de plus.
Alors justement, vous avez évoqué votre livre Histoire d'espace. Je voudrais qu'on en parle un peu plus. Qu'est-ce qu'on y trouve donc dans ce livre ?
Alors c'est un ami qui m'a dit, écoute, à force de t'écouter dans tes conférences et t'écouter parler, il faut que t'écrives un livre. Alors il m'a dit, je vais t'aider, je vais venir te voir régulièrement, c'est Philippe Gaillochet. Donc deux fois par semaine, il venait me voir tôt le matin, on se donnait rendez-vous à 7h et on travaillait de 7h à 8h30 à peu près. Et il me dit, je vais ordonner des questions dans un ordre chronologique d'une mission, je vais t'enregistrer. Et je vais te renvoyer sous forme Word, Microsoft Word, le retranscript mot à mot de ce que tu auras dit. Et puis après, on a passé un temps fou à nettoyer. J'ai dû relire des dizaines de fois tous les textes pour élaguer, etc. Et je me suis aperçu qu'en faisant ça, ça a fait quelque chose. Ça a fait un livre, une histoire, comme une histoire qu'on raconte, avec souvent des anecdotes, des détails que je n'aurais certainement pas produit seul en écrivant sur une page blanche. C'est le fait de parler à un ami, de lui raconter une histoire qui a produit ce livre avec ses anecdotes et puis ses petits aléas. C'est l'histoire de mon troisième vol, de ma troisième mission spatiale de réparation du télescope spatial Hubble, avec quelques excroissances, quelques anecdotes parallèles sur d'abord mon enfance, comment je suis devenu astronaute, sur des personnages clés que j'ai rencontrés, sur le télescope spatial Hubble lui-même et sur certaines réflexions que m'ont inspiré la vue de la Terre, la vue des étoiles. Si on éteint toutes les lumières dans le cockpit, On peut voir le ciel étoilé encore mieux qu'on le voit depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas et c'est magnifique. Et on peut pas s'empêcher de réfléchir sur notre condition d'humain, sur ce petit vaisseau spatial perdu dans l'immensité du cosmos. Et voilà ce qui a donné ce livre.
Et on peut y lire des anecdotes aussi, comme du fromage dans l'espace.
Voilà, oui, effectivement, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes tous des humains, on a une famille au sol, on a des amis, on a des responsabilités, on a envie de revenir, on a envie de raconter ce qu'on a vécu, et puis dans l'espace, on peut manger des produits identiques à ceux qu'on mange sur Terre. Ma sœur était une championne de fabrication du fromage de chèvre, et j'en ai amené dans l'espace, qu'on a mangé dans la station Mir, et que j'ai partagé avec mes amis. J'ai amené aussi du foie gras, du cassoulet, du petit salé aux lentilles, etc.
On arrive malheureusement au terme de cette émission À toi les étoiles, Jean-François Clairvoy. Et comme j'ai l'habitude de faire dans cette émission, eh bien, je demande toujours, pour conclure, le mot de la fin de l'invité. Alors Jean-François Clairvoy, pour conclure, votre mot de la fin.
J'aimerais dire que je souhaiterais que tous les humains puissent aller dans l'espace, comme je l'écris sur la quatrième de couverture du livre, justement, parce que si tout le monde avait l'occasion de voir la Terre depuis l'espace, il se rendrait compte qu'il n'y a pas de différence entre les humains. Nous sommes tous les mêmes membres d'un même équipage, d'un vaisseau spatial naturel qui est notre planète, qu'on veut préserver. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les astronautes sont souvent actifs bénévolement pour soutenir des associations. J'ai des collègues qui sont ambassadeurs de l'UNESCO, du WWF. Je parraine le centre de développement durable, le parc de développement durable EANA en Normandie. Je parraine aussi une association en Polynésie française qui s'appelle Temana Otemoana, qui veut dire l'esprit de l'océan, qui fait un travail vraiment formidable de sensibilisation des jeunes sur la préservation de l'environnement et de l'environnement marin, polynésien en particulier, qui fait de la recherche aussi et du travail de préservation. C'est-à-dire, ils vont régulièrement sur des atolls et ils mettent du grillage pour protéger les bébés tortues. Par exemple, ils vont les compter. Ils expliquent aux Polynésiens qu'il ne faut plus tuer les tortues pour manger, pour faire de la soupe de tortue, parce que traditionnellement, c'était un plat à vénérer. Et voilà, on se sent redevable envers la société qui nous a permis de vivre notre aventure par le contribuable, qui finance en moyenne 60 centimes d'euros par an, hein, je précise, ce que dépense le contribuable en moyenne pour nos programmes de vol habité. En France, en Europe, c'est moins de 1 euro par an par personne, hein, comparé aux plusieurs centaines d'euros pour l'éducation, la sécurité sociale ou l'éducation nationale. Donc voilà, soutenir des associations qui bénévolement se donnent à fond pour protéger notre planète, on les encourage, et puis j'encourage ceux qui ne peuvent pas aller dans l'espace de devenir membres de telles associations.
Merci beaucoup Jean-François Clairvoy de votre présence aujourd'hui dans les studios d'IDFM Radio Anguin. Je remercie aussi beaucoup l'Agence Spatiale Européenne et tous les gens qui ont contribué à la préparation et à la réussite de cette émission À toi les étoiles.
C'est ainsi que se termine cette rediffusion d'À toi les étoiles, enregistrée initialement le 16 juin 2010, avec comme invité Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, aujourd'hui retraité. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir cette émission consacrée à l'homme dans l'espace, un thème toujours aussi passionnant et d'actualité 15 ans plus tard. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro d'À toi les étoiles, le dimanche 16 novembre 2025, de 13h à 14h sur IDFM Radio. En attendant, continuez à lever les yeux vers le ciel, et comme toujours, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Bon dimanche à tous!
Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck, le troisième dimanche, de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.